Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Fossés en Amérique. On a pris une petite pause, pas voulue en fait. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose parce que les gens qui d'habitude ne sont pas là, ils ne les écoutent pas, donc ce n'est pas grave. Hadi Raphaël à l'animation, je suis rejoint par mon ami Ludo en premier, celui qui nous écoute tout le temps. Salut Ludo, ça va bien?
Salut Hadi. Ouais, écoute, ça va très bien. Après une soirée comme ça, on ne peut que aller bien. Donc c'est super, écoute. Tout va très, très bien et je vais passer une très bonne semaine.
Ouais, ben je pense que moi aussi. D'un autre côté, on a Julien qui vient tout juste de sortir du stade. Et ça a l'air qu'il n'est pas si content que ça, mais on va en parler un peu plus tard. Salut Julien, comment tu vas aujourd'hui?
Ben ça va, l'équipe comme Lulu, on va passer une bonne semaine. Et j'espère que ça nous permettra de fermer quelques bouches ce soir, même s'il ne faut pas tirer de conclusion un peu trop hâtive. On a un souvenir de Mitchell qui nous avait fait le premier match avec 6-0, donc... On ne va pas trop s'enflammer, mais franchement, ce que j'ai vu, moi, pour l'instant, ça m'a plu.
Ben, on va en parler, mais commençons un peu avec le petit coup de froid que tu as eu au début du match, Julien, parce que tu étais au Stade Vélodrome. Parle-moi un peu de ce début de match. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit que tu étais un peu fâché, donc voilà, on te laisse raconter un peu ta petite histoire.
Je deviens trop patient et je deviens vieux, c'est ça qui m'énerve. C'est que moi, j'arrive plus. Tu sais, moi, Twitter, j'en ai de plus en plus mal quand je vois tous ces jeunes ou tes supporters en carton qui adorent faire du buzz sur notre dos et tout. Et je m'étais toujours dit que le stade, c'était pas Internet. Le stade, c'était la vraie vie, c'était les vrais supporters. On nous déplaçait, on était là et tout. Et quand j'ai entendu Tudor se faire siffler et tout, et même par mes propres collègues à côté de moi et tout, je ne comprenais pas, ça m'a limite énervé, voire dégoûté. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse déjà enterrer quelqu'un avant qu'il nous ait proposé quelque chose. C'est carrément un délit de sale gueule, là, carrément, parce qu'il n'a fait aucun match officiel. C'est que des ragots et des articles mal intentionnés et tout, et tu te fais déjà ton avis au point que tu peux le siffler ton propre entraîneur au premier match de la journée. Tu le siffles au bout de la cinquième, sixième journée parce que tu n'as pas les résultats et que tu demandes son départ. C'est légitime, même si moi... premier match que tu siffles ton entraîneur et tes joueurs, ça m'horripile et ça m'a gâché mon premier quart d'heure. Franchement, j'étais tellement énervé de voir tous ces Mongoliens là, qu'ils n'arrivent même pas à gérer leur propre vie et ils veulent te donner des leçons comment tu dois gérer le... Mais j'espère qu'ils vont changer d'avis. Et comme beaucoup, tu sais, ils font les puristes et au bout de 2-3 matchs, et après, ils retournent leur veste et ils tombent la culotte. Tu vois.
Mais tu as commencé le pod en disant que tu vas avoir une bonne semaine, puis ça n'a pas trop l'air.
Non, mais après moi, et en fait, tu sais quoi, ce match, il avait tout l'air d'un match piège, parce qu'on aurait fait un match nul ou une défaite, eh ben, ça aurait mis de l'huile sur le feu, et ça aurait mis de suite le feu au vestiaire, au feu. Et cette année, je pense que l'équipe, honnêtement, on va en reparler et tout, je pense que... On a ce qu'il faut sur le papier pour l'instant. C'est déjà mieux que l'année dernière en termes d'effectifs. Et il leur manque que de la confiance. Si demain, ils engraissent de la confiance et tout, on peut faire une super saison. Et en fait, la confiance est tellement importante dans le ballon que si tu commences déjà à siffler tes propres joueurs et ton propre entraîneur, tu tires une balle dans le pied. Et tu vas foirer ta saison. C'est une saison un peu particulière où il y a 4 descentes. Si tu prends le mauvais, si tu t'enchaînes les mauvais résultats, tu perds la confiance et tout, et tu fais une année à la Bordeaux... Bon, ça permettra aussi d'après de gérer tous ces foutis du stade, tu vois, parce que si on tombe en Ligue 2, ben, je crois, la Zumba d'aller faire dormir devant le local. La Zumba de dormir devant le local, ça
je calmera. Dis, mais... Je crois que tu vas un peu loin là.
Ouais, je pense que tu vas vraiment très loin.
Je pense que tu vas un peu trop loin.
Non, mais tu sais très bien, dans le football, la confiance et l'unité du vestiaire, c'est énorme. C'est au moins 50%. Tu peux avoir tous les talents empilés, tu peux avoir tous les meilleurs joueurs du monde, s'il n'y a aucune confiance et aucune unité, tu ne feras rien. Et là, si dès le premier match, tu n'as pas fait un seul match, tu commences déjà à siffler ton entraîneur, c'est-à-dire que tu le mets pas dans les bonnes conditions, tu lui fais enchaîner les mauvais résultats, ça va vite. Hein. Mais ouais, je vais trop loin parce que ça m'a tellement énervé, j'aurais tellement de choses à dire.
Non, mais là
on va, raison, on va pas faire un pote sur ces Mongoliens. Hein.
Juste que là où tu as raison, c'est que pour que l'OM réussisse, pour qu'on fasse une bonne saison comme on a fait l'année dernière, on l'a fait aussi parce que l'année dernière, il y avait une unité totale entre supporters, dirigeants et joueurs et staff. Et c'est important de l'avoir, et c'est pour ça que j'étais, comme toi, énormément frustré de tout ce que j'entendais sur les matchs de préparation. Alors que vous le savez, parce que je vous l'ai dit, que moi j'étais assez rassuré dans le sens où je voyais que ça progressait, je voyais que ça travaillait, et que j'étais persuadé que ça serait autre chose au moment où on allait commencer, et je ne me suis pas trompé là-dessus. Quoi.
Juste Adi et Ludo, vous avez un peu plus de mémoire que moi, ça s'est déjà vu ça à l'OM qu'on prenne en grippe un entraîneur avant le premier match officiel. On l'a déjà vu ça chez nous ou pas ? Moi, je pense que même les passifs.
Ça fait que 3 ans que les matchs sont diffusés. Avant, ils n'étaient pas diffusés, les matchs de préparation. Donc, il n'y avait pas ça. Les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'il y avait. Ils ne regardaient pas les matchs. Ils voyaient le résultat, mais tout le monde s'en foutait, en fait, parce qu'on savait que ce n'était pas la saison. Là, tu ne sais pas pourquoi. C'est monté en épingle, etc. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Quoi.
Moi, c'est la première fois que je dis ça, qu'un entraîneur, on ne lui laisse pas sa chance. On a laissé de la chance, on a laissé des entraîneurs tranquilles pendant des... Tu vois, et là, c'est la première fois que je vois qu'on prend une grippe si vite. J'ai l'impression. L'année dernière, les mêmes qui critiquaient Sampaoli et tout, maintenant, tu les vois aussi critiquer Tudor, mais ils veulent quoi ? Moi aussi, j'étais le premier à peut-être avoir un nom, à vouloir un nom un peu plus pompeux. Quoi. Mais tu sais très bien qu'à l'OM, c'est pas parce que t'as un gros pédigré, un palmarès et un nom, tu vas réussir. Au contraire, hein. Regarde, les meilleures surprises. Ces 10 dernières années, c'est quoi ? C'est des guérettes, tu vois ? C'est des mecs qui n'étaient pas forcément de côté, tu vois ?
Ouais, bon, je vais un peu jouer l'avocat du diable, et exprès, je vais jouer un peu l'avocat du diable.
Bien sûr.
Déjà, en premier, juste pour mettre les choses au clair en premier, on le dit souvent ici sur les Fossoyeurs en Amérique, qu'on ne juge pas un entraîneur avant 10 matchs. On l'a dit des millions de fois, Ludo, Julien, moi... on ne va pas juger un entraîneur avant 10 matchs. Parce que les 10 premiers matchs, il y a des choses qui vont... Il y a des hauts et des bas. Et ça, c'est complètement normal le temps que tu instaures quelque chose comme il faut. Okay? Par contre, je vais jouer l'avocat du diable. Honnêtement, je sais que pour Ludo, il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit dans le pod la dernière fois aussi, la dernière fois qu'on avait enregistré. Il n'est pas très inquiet de la préparation. Honnêtement, moi, j'étais inquiet. J'avais peur que Longoria se soit trompé complètement, surtout les rumeurs avec les joueurs qui étaient en train de se plaindre des méthodes de Igor Tudor. On a certains anciens joueurs de Galatasaray qui se plaignaient de Tudor parce qu'ils ont été interrogés par des journalistes, ainsi de suite. On met par exemple Aurélien Chedjou, l'ancien Lillois, qui s'est plaint à plusieurs reprises, comme quoi non, il ne comprend pas, il ne laisse pas la tête dure, c'est très difficile, on ne peut pas raisonner avec lui, et ainsi de suite. J'étais là, OK, est-ce qu'on a vraiment envie, dans un club comme l'Olympique de Marseille, de rentrer, de se compliquer la tâche? Et ça m'inquiétait un peu, OK, je vais être très honnête. Par contre, j'étais prêt à donner une chance. De là, le sifflet, je suis complètement d'accord avec Julien. Il y a un monde entre le fait d'être un peu inquiet et siffler. Et très honnêtement, moi, je suis quelqu'un de très honnête. Hein. Il y a plein d'entraîneurs qui ont réussi à l'OM et avec qui j'étais très sceptique au début. Hein. Le plus grand exemple que je peux te donner, ben, c'est Eric Guéretz. Moi, quand Guéretz a signé à l'OM, j'étais très sceptique. C'est qui lui ? Puis écoute, finalement, c'est un des meilleurs entraîneurs des 20 dernières années hein, que l'OM a eu.
Tu sais pourquoi moi, je n'étais pas inquiet ? J'étais pas inquiet pour plusieurs raisons. C'est que déjà, on a quand même des joueurs. Parce qu'on dit Tudor, c'est un tyran, tout ce que tu veux. Mais déjà, avec Sampaoli, ça ne chômait pas.
Il était
déjà hard, déjà costaud. Par contre, moi, ce qui m'a plu directement, après, à voir si ça marche ou pas, parce qu'effectivement, on en a parlé, l'exemple de Ravanelli à Ajaccio,
Ouais, mais il est là le problème.
Le travail à l'italienne, ça peut être quelque chose qui, effectivement, est très difficile en France parce que ce n'est pas la mentalité de travail. Mais par contre, quand je vois un président qui me dit on va mettre une hiérarchie en place, il y a la direction, il y a le coach, il y a les joueurs, etc., et qu'on veut mettre de la discipline et qu'on va vers ce qui est fait dans les grands clubs en disant la République des joueurs, c'est fini, c'est l'entraîneur qui choisit, qui commande, si ça ne vous plaît pas ces méthodes, vous partez. Eh ben, moi, ce discours-là, il me rassure. Et j'ai l'impression que les joueurs, ils l'ont compris. Et je ne suis pas sûr qu'on ait des joueurs qui lâchent l'entraîneur cette année. Parce que, à moins qu'il y ait vraiment des résultats catastrophiques, mais parce qu'ils ont compris que ben, c'est le choix du président, il sera là et il faut qu'il fasse avec. Et je pense que dans un club comme Marseille, on a besoin de ça si on veut avancer. On ne peut pas se permettre des rébellions de joueurs tous les 3 ans. Quoi.
Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille, ça reste un grand club en France. On le sait, ça reste un grand club en France. Les joueurs qui viennent et qui signent à l'Olympique de Marseille sont des joueurs d'un certain standing. Tu ne peux pas non plus leur dire « vous êtes des ramasseurs de ballons, puis fermez-vous votre gueule ». Il y a aussi de la diplomatie à avoir. Tu vois, un entraîneur doit faire preuve de diplomatie, pas au point de leur dire « ah, vous jouerez tout », tu comprends ? Donc, il est là aussi, c'est l'équilibre que Tudor doit trouver entre la fermeté et la diplomatie. Et c'est là où je pense que tous les médias, en tout cas ce qu'on a vu, avaient un peu peur. Après, l'intéressant, je veux juste faire le parallélisme avec Fabrizio Ravanelli. Ravanelli, c'était son premier emploi en tant qu'entraîneur hein, à Ajaccio. Tandis que Tudor, il a eu 3, 4, 5, 6 emplois qui a fait en sorte que, oui, il a peut-être trouvé un peu sa voie et sa façon de faire entre la fermeté et la diplomatie. Mais on va le savoir dans une dizaine de journées. Vas-y, Ludo.
Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a des problèmes de communication, mais il doit le savoir. Donc, je pense qu'il est capable aussi, à un moment donné, on l'a vu sur plusieurs vidéos, où il gueulait pendant les entraînements. Mais par contre, juste en dehors, tu vois, notamment en Angleterre, tu le voyais sourire, rigoler sur des repas, sur ma chaîne. Donc, et Rongier l'a dit, il y a, quand il est sur le terrain, ouais, c'est très, très exigeant. Par contre, en dehors, ça se passe très bien, tu vois. Donc, ouais. Ça, c'est plutôt rassurant. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'OM veut redevenir un club européen et veut ambitionner à grandir, à évoluer et à revenir dans le top 20 européen, on va dire, on est obligé de passer par de la structuration comme ça.
100%.
Et de dire, à l'OM, vous ne faites pas ce que vous voulez. Maintenant, il y a une direction forte et qui a fait le choix d'un entraîneur. Ça ne vous plaît pas? Merci, au revoir. Que tu sois Gerson Payet ou qui tu veux, on s'en fout. Nous, on a notre projet, on va au bout. Je ne sais pas si Longoria réussira. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'aller dans cette direction-là.
Ouais.
Et j'ai envie de le laisser faire ce taf-là. S'il n'y arrive pas, je pense que si lui, il n'y arrive pas, il n'y a personne qui arrivera à vraiment faire passer un cap à l'OM.
Ouais. Complètement d'accord.
Ah, je suis d'accord. Complètement d'accord.
Julien, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet avant qu'on passe au prochain.
Ouais, non, mais moi, je suis complètement d'accord. C'est fini la période des sénateurs là, et des grèves de joueurs et tout. On a trop souffert, on s'est trop laissé faire et tout. Et là, maintenant, moi, s'il faut faire même tomber des légendes, hein, c'est pas grave. Hein, s'il faut faire.
Oh, mais non. Ben, écoute, je suis désolé, mais Dimitri Payet a fait une superbe entrevue.
Et regarde, les mêmes joueurs français qui se plaignent en France et tout, quand ils partent en Angleterre...
Non, mais attends. Dimitri Payet a parlé après en disant qu'il n'y a jamais eu de réunion entre les joueurs, on n'a jamais rien demandé, on travaille et on bosse.
Ouais, ouais,
et puis, bien, honnêtement, il avait l'air extrêmement sincère dans l'article que j'ai lu. Donc, faut arrêter de penser que c'est toujours Payet et tous ces trucs-là. Payet, aujourd'hui, il était sur le banc, il n'a rien dit. Il est rentré, il s'est donné à 100%. Donc, moi, je vois pas, il est où le problème avec
ça. Non, mais quand je parle de légende et tout, quand je parle de joueurs importants, il n'y a plus de joueurs indispensables. Si tu ne plies pas à la méthode, eh ben, c'est pas grave. Tu as beau être Gerson, Payet, j'en sais rien, s'il y a des gros joueurs encore à faire, Gendouzi, ce que tu veux, si tu ne plies pas, tu t'en vas, c'est pas grave. Mais.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Vas-y.
Passer pour commencer à parler du match, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ok, Payet qui est sur le banc, c'est bien, ça met un message fort. Il pose ses couilles direct en disant, voilà, c'est moi qui décide, personne n'a de statut ici. Si je peux mettre Payet sur le banc, je peux mettre tout le monde sur le banc.
Parfait,
par contre,
mais parlons.
Je me suis dit, par contre, je me suis dit, si jamais ça tourne mal, tu sais que là, ça peut être très compliqué. Mais au final, quand tu vois la soirée, ben, le message, il est bon. Le truc, il est bon. Payet, tu ne l'as pas vu faire la gueule. Il est rentré. Il a fait une très bonne rentrée.
Il s'est donné à 100%. Il a mouillé le maillot.
Il n'est pas venu en reculant. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait... Tudor, il a dit que c'était un choix tactique. Mais peut-être qu'il avait une petite gêne ou machin. On ne sait pas. Ça, il ne le dira peut-être pas. Mais du coup, je trouve que le message, il est très, très bon en voyant, en disant, voilà, si je peux mettre Payet sur le banc, sachez que vous pouvez tous être sur le banc. Donc maintenant, c'est moi le patron.
Ça, parfait, mais parlons un peu, en fait, super belle transition, Ludo, on va parler du match, on va commencer par la compo, en fait, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon, on sait que Paulo Lopez était blessé, donc on a Ruben Blanco dans les buts. La défense à 3, on a Mbemba, Gigot, Balerdi, au grand plaisir de notre ami Ludo. En tant que piston, on a Klos à droite.
Je sens l'ironie, là, déjà.
On a Klos à droite, on a Tavares à gauche. Au milieu de terrain, on a Rongé, Guendouzi. Devant, on a Under Gerson. Et en pointe, on a Milik. J'aimerais vous entendre sur cette compo. Très honnêtement, moi, j'étais extrêmement étonné de la compo. Je ne m'attendais pas du tout à cette compo-là. Mais j'ai hâte d'entendre. Je vais vous donner mon avis en premier. Déjà, je ne m'attendais pas à ce que Tavares soit directement titulaire. Après, écoute, je ne savais pas qui il fallait mettre à sa place, mais je me suis dit, ils vont peut-être lui donner une semaine ou deux avant de lui donner ce rôle-là. Deuxièmement, Balerdi, ça m'a extrêmement étonné de le voir titulaire. Sinon, Milik, ça m'a étonné de le voir titulaire parce qu'on l'a rarement vu titulaire aussi dans la préparation. Donc, je ne sais pas, c'est trois titularisations auxquelles je ne m'attendais pas. Après, on va parler de nos appréciations, mais commençons par la compo en tant que telle. Julien, je te laisse commencer. Quand tu as vu cette compo-là, est-ce qu'il y a eu des surprises?
J'ai dit waouh, pas de paillettes, waouh, bravo, le message, il est bon. Enfin, le message, il est bon ou le message, il est fort? J'ai dit, il est couillu, le Tudor, de mettre paillettes sur le banc. Écoute, moi, la défense et les pistons, franchement, je n'ai pas vu la préparation. Donc, je ne savais pas s'ils étaient prêts ou quoi, mais c'était pour moi l'équipe type qui a une petite type de 5 derrière. Non, moi, le plus gros message pour moi, c'était le paillette sur le banc. Et comme a dit Ludo précédemment, c'est couillu, mais ça casse ou ça passe. Ou ça passe ou ça casse, pardon.
On parlera de paillettes en détail un peu plus loin, enfin en détail, au moins on va en parler quelques temps, mais parlons de ceux qui étaient sur le terrain, Ludo, tu regardes ça, tu te dis c'est logique.
Ouais, pour moi c'est exactement parce que derrière c'est ce qu'il a fait jouer contre Milan, on avait vu rentrer Touré derrière, mais il a été pris par les émotions, par le stade, etc., parce que c'est un très jeune joueur et il s'était pris un rouge. Donc, je pense que s'il le fait jouer, il commencera à le faire jouer à l'extérieur et pas au Vélodrome. Parce que tu l'as senti contre Milan, qu'il était fébrile, l'envie de bien faire, etc. Mais du coup, c'est dangereux pour le lancer, je pense.
Donc, ouais, c'est pertinent, ça.
Et puis, Balerdi avait fait un très bon match contre Milan, donc il n'y avait pas de raison de ne pas le remettre. Le milieu de terrain, il était classique. La seule surprise pour moi, et puis je vous l'avais dit, moi, c'était mon équipe type. La seule surprise, c'est Under à la place de Payet. Mais sinon, c'était exactement l'équipe à laquelle je m'attendais. Donc voilà, la seule surprise, c'était Payet. Mais sinon, c'était exactement l'équipe que je m'attendais.
Parlons de Payet. Je vais vous poser, moi, une question. Parce que moi, dès que je n'ai pas vu Payet sur le 11, je me suis dit, tu sais quoi, finalement, c'est normal. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé ça normal. On parle de la préparation de Igor Tudor, comme quoi elle est extrêmement lourde et qu'elle est très difficile sur le physique. Payet, ce n'est plus un genou, hein. Il y a quoi, 35 maintenant, bientôt 36. Pour moi, c'était complètement logique qu'après une préparation aussi forte que ça, que Payet ne soit pas prêt à jouer en 90 minutes, que Payet ne soit pas frais. Ça reste quand même un joueur qui, physiquement, c'est un joueur qui prend du temps à vraiment démarrer sa saison. Toujours en début de saison, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a souvent des rouges en début de saison. Mais bon, pour moi, je n'ai pas été étonné parce que je me suis dit, ah, peut-être j'ai trouvé le... J'ai trouvé l'excuse directement après. Est-ce que je suis très loin du compte pour vous ou est-ce que c'est...
Je me suis fait la même réflexion en disant il a peut-être eu du mal à digérer la préparation. Et peut-être que, tu sais, maintenant, ils analysent toutes les performances dans vos entraînements, etc. Et ils se sont peut-être dit que Payet était un peu sur le routeur et que s'il le lançait aujourd'hui, ça pouvait être dangereux, tu vois. Qu'il n'avait peut-être pas pour jouer 90 minutes ou qu'il y avait des gros risques de blessure s'il jouait 90 minutes. Donc, je pense que pour pas prendre le risque qu'il pète d'entrée, c'était la meilleure chose. Mais moi, j'ai une deuxième explication aussi. C'est qu'on s'attendait à un Reims qui joue très bas, etc. Où il fallait aller mettre la pression tout de suite. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Le travail d'Under qu'il a mis sur le pressing en début de match qui a fait très, très mal. Est-ce que Payet aurait été capable de faire ça? Je ne pense pas. Donc, c'était aussi un choix tactique au départ sur une équipe contre Reims. Et je pense que sur des matchs où on est censé avoir plus le ballon, où on va avoir plus de la possession, etc., il y aura peut-être, c'est peut-être à ce moment-là qu'il jouera plus avec Payet. Quoi.
C'est aussi super intéressant aussi d'avoir Payet sur le banc. Ça nous permet de voir d'autres tireurs de coups francs et de corners. Notamment, on sait Klos et tout ça, il aime bien tirer les coups francs et compagnie. Donc, c'est vrai qu'au début du match, de ne pas avoir Payet titulaire, tu te dis, putain, tu peux peut-être arriver à faire avoir de nouveaux tireurs et avoir peut-être des situations un peu plus dangereuses. Tu vois. Mais effectivement, il rentre dans sa 36e année, il va pas enchaîner les 90 minutes à chaque fois. Et puis moi, un Payet qui rentre à la 60e, plein d'envie, le sourire, et qui est capable sur 2-3 transitions, de débloquer un match, moi, ça me va. Hein. Si cette année, il joue le super sub... et qui finissent comme ça là, je sais pas si c'est sa dernière saison ou l'avant-dernière, mais...
Non, il a dans tous les cas
il reste celle-là
et celle d'après.
Bah, écoute, si son corps il peut lui faire 40 minutes 50 minutes à haute intensité avec des trucs, moi le rôle de Payet il me bat très bien, hein.
Ah mais il a été oubliez pas qu'il a eu sa meilleure carrière meilleure saison en carrière l'année passée en termes statistiques, donc il a été quand même extraordinaire, donc moi je pense pas que ne lui permet pas de faire grand chose,
non, hein, mais Adji, regarde les c'est quelqu'un qui a toujours été assez irrégulier, il a eu des grosses baisses de fatigue aussi dans la saison l'année dernière, nous on l'a remarqué aussi avec Jus, des fois on pestait au stade parce que à la 60e il allait se cacher
sur le côté
parce qu'il avait parce qu'il n'arrivait plus à aller faire les efforts, etc. Tu vois, et tu te dis, ben, si Tudor, il est assez intelligent pour lui faire un coup jouer 60 minutes, le match d'après 30, etc. Et qu'on arrive à avoir un Payet qui, sur la période où il joue à chaque fois, est au top au final, ben, c'est peut-être là qu'on en tirera encore mieux. Il va peut-être exploser ses stats encore cette année comme ça.
Hein. Ouais. Ben, je serais surpris qu'il soit autant ménagé que ça. Par contre, c'est sûr qu'il ne sera plus titulaire à chaque match, comme on l'a vu aujourd'hui, et c'est normal. Quelque part, c'est normal, et lui, je suis sûr qu'il va accepter ce rôle-là, mais il va quand même être un joueur extrêmement important cette saison. Ça, c'est sûr, ça reste un joueur hors norme. Donc,
malgré tout ce qu'on a dit, je suis persuadé que Tudor a échangé avec Payet avant, lui a expliqué, ils ont vu ensemble,
c'est sûr.
Payet l'a accepté aussi. Je ne pense pas que Tudor prend le risque aussi de se mettre le feu.
De se mettre un joueur comme ça à deux.
Sans avoir rien dit, sans en avoir parlé avec lui et sans avoir son aval, on va dire.
Ouais, non, c'est sûr. Parfait, donc on a parlé un peu de cette compo qui était quand même pour moi un peu bizarre. Il faut dire aussi que moi, le dernier match de préparation que j'avais vu, c'était le match contre Norwich. Donc j'avais perdu, j'avais raté le match contre Middlesbrough, Betis et Milan. Donc il y a le seul qui a vu tous les matchs de préparation, bah, c'était Ludo. Donc voilà, mais.
On peut le dire que vous me preniez comme un fou à chaque fois que je vous disais je suis pas inquiet, tout va bien.
Pas vraiment, pas vraiment. On faisait confiance. Julien.
Ah non, moi je fais confiance. Totalement confiance en Julien.
Ouais, moi aussi, moi aussi. Pas sur Balerdi, mais.
Ah
voilà,
voilà. Il y a que sur ça.
Bon, parlons des performances individuelles, les amis, mais avant tout, parlons du nombre de recrues qui ont joué aujourd'hui. C'est quand même impressionnant le nombre de recrues qui ont joué aujourd'hui. On a Ruben Blanco, Mbemba, Gigot, Klos, Tavares, Luis Suarez et Jordan Fertu. 7 joueurs sur 16 qui ont fait leur début avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui, une victoire de 4-1. On dit souvent que c'est quand même difficile de trouver que la mayonnaise prenne directement. Est-ce qu'on peut se dire que la mayonnaise a pris quand même assez vite, Julien?
Non, il ne faut pas s'enflammer, les gars.
Non, mais quand même. Non. 7 nouveaux joueurs sur 16 qui font leur début, puis on gagne 4-1.
Mais déjà, l'avantage, c'est que là, sur les 7, il y en avait deux qui n'avaient pas de concurrence l'année dernière. On avait deux latéraux. Il y avait deux latéraux qui peuvent que faire mieux que ce qu'on avait.
Mais c'est un autre système de jeu.
Non, mais même.
Oui, non, mais
même sans parler de la concurrence, c'est vrai que moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, putain, on a l'impression qu'ils ont toujours joué ensemble, quoi. Quand tu vois Wander et Klos qui s'échangeaient sur le côté, presque les yeux fermés. De l'autre côté, Tavares et Gerson aussi, qui ont fait un gros match sur leur côté gauche, les deux. Bah, en fait, tu te dis, mais ils ont déjà les automatismes. Faut rappelez-vous, hein, Tavares, il est arrivé il n'y a même pas 15 jours. Quoi. Et quand tu vois ça, Mbemba et Gigot, j'aime beaucoup aussi l'association derrière. Avec Balerdi, ouais, ils ont fait...
On va en reparler. Pour moi, c'est fin.
Bah écoute, moi j'aime bien ce que je vois pour l'instant et tu te dis bah déjà ils ont l'air de se comprendre et d'avoir déjà les automatismes. Bon, ils ont joué plusieurs matchs ensemble, hein, les deux déjà. Ils ont fait pratiquement tous les matchs de prépa ensemble, hein, même pas parce qu'il est arrivé tôt avec Gigot, et tu sens qu'ils commencent à avoir quand même pas mal de complémentarité, donc c'est plutôt bien, quoi. Et puis Suarez, l'entrée de Suarez.
Ouais, je suis globalement d'accord. C'est franchement, on a vu une équipe qui pour moi avait déjà l'expérience de jouer ensemble. On les a vus, ils se sont bien trouvés. Je trouvais que c'était très rapide dans les transmissions. Donc ça c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se trouver facilement et tout. Écoute, moi, franchement, ce que j'ai vu sur les 15 premières minutes, j'étais vachement... Enfin, c'est une équipe, c'est une tactique que j'aime, moi. C'est bien la possession, c'est bien de faire tourner le ballon comme l'année dernière avec Sampa et tout. Mais là, moi, ce que j'ai vu, les 15 premiers... Où sur chaque ballon des Raymond, eh ben, il y avait un pressing, les mecs, ils étaient sous pression et tout, avec le public qui pousse. Moi, c'est ce que j'aime, moi. C'est l'OM que j'aime. Moi. Des mecs qui se donnent à fond, qui lâchent rien, qui sont carbo et tout, et à la fin du match. Et moi, ça m'a vraiment plu. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai raté pas mal. Enfin, j'ai raté tous les matchs aussi de préparation, je n'étais pas là. Et j'avais Lulu qui me disait, ça se construit bien et tout, il y a du mouvement et tout. Donc, j'étais pas trop inquiet, mais ce que j'ai vu. Et ce qu'on nous a dit, Tudor aussi, c'est un mec qui était exigeant, qui demande beaucoup de pression et tout. Et moi, franchement, ce que j'ai vu sur les 15 premières minutes, c'est ce que j'ai, c'est à quoi je m'attendais. Et franchement, j'ai été franchement très emballé. Je peux, comment dire, on ne va pas s'enflammer et tout, mais moi, ce que j'ai vu aujourd'hui en termes de mentalité, c'est un OM qui me plaît, vraiment. Alors, ça sera peut-être pas payant aussi facilement. On va se prendre des volets parce que le Tavares, tu sens que derrière, c'est compliqué et que des fois, il oublie un peu son couloir. Pour moi, la centrale, la Gigot Mbemba là, et Balerdi, et ben, des fois, il y a eu des gros trous et c'était un peu, des fois, c'était un peu compliqué, surtout en début de seconde période.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Mais moi, ce que je vois là, c'est
ça. Ça, c'est le truc qui n'a pas changé. Hein. Les débuts de... On va en parler après, mais les débuts de seconde période, de... Mais ça moi, fait un moment juste... que ça dure, cette connerie-là. C'est fatigant.
Ouais.
Hein.
Et je ne sais pas si vous a... on va en parler, mais j'espère. Mais moi, le capitana à Rongier, j'adore. Hein. Les gars, je ne sais pas vous, mais moi, un joueur comme ça, exemplaire, avec une mentalité de ouf, un travailleur et tout, moi, c'est...
Il a fait un gros match, Rongier. Il a fait un très, même, très gros match hein, au milieu de terrain.
La symbolique. Et... La symbolique du brassard à ce joueur-là, moi je suis fan, vraiment.
Parce que... Tu sais, quand je voyais toutes les compos sur Internet, là, sur Twitter, toutes les compos des équipes, ils voulaient tous mettre Gerson à côté de Guendouzi. J'ai dit, mais vous êtes fous, Rongier dans ce dispositif-là, tu le bouges tu le sors pas, hein, Rongier, parce qu'il est complètement Tudor compatible. Et il correspond exactement à ce que tu as besoin dans ce style de jeu.
Tu as vu, moi c'est là où je suis d'accord avec toi. Mais j'ai des réserves. Pour moi, oui, Rongier, il est là, puis il est titulaire. Et je trouve qu'il a fait un énorme match. Il a un poteau encore, le pauvre, pour une fois qu'il arrive à tirer comme il faut.
S'il apprend en plus, apparemment, il a appris à tirer dans l'été. Donc, si en plus, il arrive à faire ça maintenant.
Ouais, mais c'est vraiment magnifique. Mais parlons un peu du match. Puis après, on va parler un peu de... on va faire un petit segment sur Rongier. Ou au moins en parler un peu. Parlons de ce match-là. 15 premières minutes, vous avez parlé du pressing intense tous ensemble. Résultat, premier but, but contre son camp de Faes. Est-ce qu'on devrait s'attendre avec Igor Tudor à ce genre de pressing en début de match, un pressing intense? Parce que je ne pense pas qu'on l'a vu tout le reste du match. On l'a vraiment vu dans les 15 premières minutes pour marquer le premier but. Est-ce que ça va être un peu les clés du match, ces 15 premières minutes à chaque match? Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était fait sur l'adversaire du moment, Ludo?
Non, je pense vraiment que c'est la tactique à Tudor d'aller étouffer directement l'équipe en face, de les pas qu'ils prennent l'eau tout de suite, qu'on leur mette la pression. Et ça a super bien fonctionné parce qu'on les a vus paniquer. Et entre la pression qu'ils mettaient et les deux pistons qui partaient dans tous les sens, tu voyais la tête de Faez au bout de 10 minutes. Il était au bout de sa vie, le mec. Je crois que s'il pouvait sortir, il avait envie de sortir, tu vois. Ils n'en pouvaient plus. Physiquement, tu avais l'impression qu'on avait 6 semaines d'avance sur la préparation par rapport à eux, quoi. C'était fou la pression que tu leur as mis et tu leur as fait comprendre, les gars, vous êtes au Vélodrome ce soir. C'est pour nous. Vous n'aurez rien. On ne vous laissera pas une seconde. Et les mecs, en face, mentalement, ils avaient déjà perdu le match, en fait, tu vois.
Ouais, je pense que c'était ça, comme c'est ça qu'il fallait faire pour démarrer. Je voyais pas comment tu peux démarrer autrement. Un match, tu sais, au Vélodrome, il faut toujours le démarrer.
Ouais, je suis d'accord.
Tu leur montres que c'était chez toi.
Il faut que tu mettes cette pression énorme, cette énorme pression sur l'adversaire pour vraiment qu'il succombe à un moment donné dans les 15 premières minutes parce que tu leur mets tellement la pression. Là.
Quand tu voyais leur visage à la télé, quand ils faisaient les gros plans, tu sentais qu'ils disaient, mais putain, on ne va jamais tenir. S'ils continuent comme ça, mais on ne tiendra jamais tout le match, tu vois. Et tu sentais de la peur et tu sentais de l'inquiétude directement chez les adversaires, quoi.
Ouais, effectivement. Parlons un peu de ces pistons, parce que c'est là que, surtout à partir de cette 15e minute, qu'on a vu le travail de Tavares, de Klose. Oui, on l'a vu dans les 15 premiers, mais les 15 premières, c'était, je pense, un tout. Mais tout le reste de cette première mi-temps, le travail des deux pistons était extrêmement important. Et après, le gros summum de leur travail, l'apogée de leur travail s'est traduit en un but ô combien magnifique de Nuno Tavares. Julien, je te laisse commenter sur ce but-là, parce que je suis sûr, vu du stade, ça devait être encore plus beau que vu à la télé. Donc, parle-nous un peu de ce but-là et de l'extase.
Ah, franchement, il a tout fait, il a fait tout ça tout seul, hein, tu te rends compte. Il s'est démarqué, il a pris, il a marqué. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un latéral faire ça. Moi. Je sais pas, moi j'ai vu du Taïwo là-dedans. Quand il aimait bien faire ça, Taïwo, il revenait, il repiquait, il frappait. Écoute, ça, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un latéral à l'OM faire ça.
Ouais,
clairement. Les dernières années, tu sais, on s'est pris Ubokan, Sakai, Nagatomo et Amavi. Donc, je vais te dire, du coup, ça fait bizarre.
Du coup, tu es choqué, tu dis mais c'est pas possible, il a vraiment fait ça. Tu te regardes, tu te retournes, tu dis c'est vraiment lui, là. Il a fait ça tout seul, il n'y a pas eu. Et apparemment, non, il a fait ça tout seul.
À part Taïo, moi, le latéral gauche que j'ai aimé, c'est Manuel Dos Santos. Et après, il n'y a pas grand monde. Hein.
Ah ben, tu ouais, vois, tu me l'as enlevé de la bouche.
Voilà. Voilà, ben,
Dos Santos, c'est début des années 2000. Hein.
Ouais.
Ça fait 20 ans. Hein.
Ça fait 20 ans.
Moi, je te jure,
oui, on a eu Bonnard peut-être à un moment donné. Mais,
ouais, mais il est droitier. C'était un latéral droit.
C'était de l'autre côté. Ouais, c'était de l'autre côté.
Mais écoute, ouais. Moi, franchement, sur la première 30-40 minutes, je me suis dit, j'ai revu un Taïo, je te promets. Un mec qui n'est pas forcément très, très bon en défense. C'est-à-dire qu'il y a eu des retours où il s'est fait prendre dans le dos.
Il y a eu Mendy aussi.
Ah oui, il y a eu Mendy. J'avoue que Mendy a été bon.
Ouais. C'est vrai. Mais Mendy, ouais.
Je vois beaucoup plus Tavares comme Mendy que Tavares comme Taïo, personnellement.
Oui, oui.
Il n'y a personne qui ressemble à Taïo. Personne. Il n'y a aucun joueur qui ressemble à Taïo. Non, mais c'est vrai ou pas, les gars? Le mec, il avait une frappe, c'était d'un autre monde, c'était génial.
Limite, c'est le mec plus Touré qui ressemble à Théo, tu vois, dans le profil.
Ouais, mais il était
le
fou.
Le physique de 2 mètres, qui est capable de mettre des frappes de dingue.
Ouais, et c'est surtout que Théo, il jouait, mais il s'amusait, il réfléchissait pas, il enlevait son cerveau, et il faisait courir et frapper. Et ça, des profils comme ça, atypiques, on a eu la chance d'en avoir quelques-uns, mais on en aura... Enfin, c'est-à-dire, c'est rare, il en faut 10 ans, il en faut t'en sortir. Et je sais pas, moi j'ai retrouvé un peu de folie à la Taïo et je me suis dit, ça fait bizarre d'avoir des latéraux parce que le premier but, c'est Klos qui se le fait tout seul. Hein. Il se le prend et il fait un beau centre fort et on se le dit tout le temps, un beau centre. S'il est bien placé, même fort et tout, ça peut toujours faire sur un malentendu, un coup de billard et tout, ça passe. Et regarde.
Mais
ça,
ouais,
ça fait vraiment plaisir sur cette première mi-temps de te dire, putain, il y a enfin des latéraux.
Mais franchement, c'est vrai que les deux pistons, ils ont été impressionnants en première mi-temps. Le coffre qu'ils ont, les allers-retours qu'ils ont fait, j'ai l'impression que déjà, ils étaient sur pile, qu'ils n'étaient jamais fatigués. Mais alors, Klos a été bon sur son côté. Mais alors, Tavares, j'ai l'impression que le mec, en fait, c'est un Duracell, quoi.
Ouais.
Le gars, il n'est jamais fatigué. Il a enchaîné les accélérations. Tu voyais le pauvre défenseur, j'avais de la peine pour lui, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il s'est pris dans la gueule, le défenseur de Reims? À chaque fois, se prendre l'accélération, à y aller, tout ça. Et il y va une fois. Tu dis, mais en fait, il ne fatigue jamais, quoi. Il peut enchaîner, il peut redoubler les choses comme ça. Et puis, qualité de centre, qualité de frappe. Waouh, moi, franchement, quand j'ai vu sa première mi-temps, je fais, ah ouais, ah, il va nous faire du bien.
Ouais. Hein. Ah. Je suis d'accord.
C'est dommage qu'on n'a pas d'option d'achat sur son prêt, mais bon. Je pense que il fera une saison puis il s'en ira parce qu'on n'aura pas les moyens d'acheter après coup là, mais on verra. Parlons un peu de ce début de deuxième mi-temps, ces flottements. Julien, t'en as parlé un peu plus tôt. Il est où le problème? Pourquoi on a encore ces flottements? Et j'aimerais surtout entendre Ludo parler de son chouchou Balerdi. Surtout, il a quand même du mal à ce moment-là. Est-ce que c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Est-ce que on parle de sa jeunesse, son inexpérience, son retour de blessure, la grosse préparation, pas aidé par Tavares? Bref, parlons un peu de ce qui se passe en fait en début de première mi-temps, avant de passer un peu au changement du coach. Vas-y, Ludo.
Ben écoute, franchement, je sais pas depuis l'année dernière ce qu'ils foutent à la mi-temps. Je sais pas s'ils fument de la chicha, je sais pas s'ils se mettent en off, si je sais pas, ou s'ils vont se doucher, qu'ils se coupent les jambes. Mais c'est un truc de fou. Ça fait plus d'un an que tous les retours de deuxième mi-temps, ils mettent 5 minutes à se remettre dans le jeu. Donc, je ne sais pas s'ils puissent des énergies, s'ils n'arrivent pas à récupérer, s'ils prennent des trucs à la mi-temps qui leur coupent les jambes et qui leur redonnent après la force 5 minutes après, tu vois. Mais tous les retours de mi-temps depuis plus d'un an, c'est la misère. On sait qu'on a 5 minutes où on va prendre l'eau. Donc, voilà. Après, tu me parles de Balerdi. Honnêtement, jusqu'à sa boulette sur le but, on va dire, il fait quand même un très, très gros match. Il est présent physiquement. Et c'est ça qui est dommage avec lui, c'est qu'en fait, sur une erreur, il gâche les 90 très bonnes minutes qu'il fait, tu vois.
Doria, quoi.
Hein? Non, c'est pas Doria, mais c'est pas que je veux le défendre, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu sens qu'il y a énormément de talent, qu'il fait beaucoup de bonnes choses, mais oui, si c'est une boulette par match, c'est compliqué. Après, là, c'est pas une grosse boulette. Il dévisse et il a pas de cul, ça finit en but, tu vois.
Klaus a dévissé... C'est une boulette, hein,
mais ouais, mais regarde, Klaus a dévissé en début de match aussi, à un moment donné. Tu la vois, tu le vois là, au début du match où il dévisse sur un corner de Reims. Ben voilà, il n'y a pas but derrière et tout le monde l'oublie, tu vois. Et tu vas dire, ben Klaus, il a fait un super match. Ben Balerdi, en plus de faire ça, malheureusement, derrière, il y a but. Donc
surtout que Klaus, il a fait deux relances dans l'axe, là, qui auraient pu nous coûter cher, là.
Ouais, ouais, mais en fait, tu vas pas forcément le retenir parce que derrière, il n'y a pas de but, tu vois.
Bien sûr, je suis d'accord. Bref. Moi, ce que je me disais en première mi-temps, les gars, je me disais avec la débauche d'énergie à la mi-temps, là, quand on a parlé. Je me disais qu'avec les débauches d'énergie et la préparation qu'ils ont fait, je m'attendais à vraiment un coup de mou en seconde. Mais je ne m'attendais pas à un trou d'air comme ça de 15 minutes comme on avait avec Sampa. Hein.
Et après, pour être honnête aussi, Balerdi sur le côté gauche, on sait qu'à la base, c'est le pire poste pour lui. Hein.
Ah ouais, et c'est ça aussi.
On l'a vu très, très bon au centre. On l'a vu plutôt pas mal à droite. Par contre, à gauche, on sait qu'il n'est pas sur son bon pied, etc. Et ça, je vous l'ai toujours dit, moi, j'étais inquiet quand je le voyais dans ce poste-là. Et puis finalement, que ce soit contre Milan ou ce soir, il fait quand même deux prestats plutôt bonnes. Mais après, ouais, cette boulette, ben oui, aujourd'hui, ça n'a pas de conséquences. Demain, il le fait quand tu mènes 1-0, ben, tu as envie de l'insulter. Et voilà, et tu as envie de l'insulter de tous les noms. Donc, ouais, c'est frustrant et c'est dommage. Mais par contre, le trou d'air, comme tu dis, total de l'équipe, ça, il fait chier, par contre. Tu as l'impression qu'ils se sont dit, c'est bon, c'est plié, on fait tourner et basta. Parce que
l'année dernière, tu menais 15-0. L'année dernière, tu menais 15-0 à la mi-temps et tu avais ce même trou d'air. Là, cette année, bon, allez, t'as la chance, tu marques à la dernière minute. Mais je ne pense pas que dans leur tête, ils se disent, ça y est, c'est plié à 2-0. Parce qu'ils savent qu'ils mènent 2-0, mais un peu, pas du tout contre le cours du jeu, mais c'est miraculeux, tu marques le deuxième but à la dernière seconde, tu vois.
Ouais,
donc, j'arrive pas à l'expliquer. Moi, je ne l'ai pas non plus. Donc, et à chaque fois, c'est un mystère. Et je me dis, ouais, c'est peut-être...
Surtout que tu as changé d'entraîneur, tu as changé de staff. Donc, c'est à un moment donné, voilà. C'est quelque chose qui pourrait être gommé et pas du tout, quoi.
Bon, on verra. On va donner la chance à ce staff-là d'essayer de gommer ça. Après, on s'entend qu'on est encore au premier match pour ce staff-là. Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir mettre des choses en place pour qu'on ait plus ces trous d'air en début de deuxième. Mais parlons un peu des changements du coach. Parce que, écoute, on va faire le petit bilan. Non, en premier, changement, 62e minute avec Milik qui sort pour Luis Suarez. Même en même temps, Under qui sort pour Jordan Vertu, qui direct
tournant du match,
est là. Gerson qui sort et remplacé par Payet à la 77e. En même temps, Guendouzi sort, Bakambu qui rentre à la 77e. Et enfin, à la 83e, on a Klaus qui sort, Piccolasinac qui rentre. On regarde un peu le bilan de tout ça. Ben, Suarez a deux buts. Bakambu a une passe décisive. Et Vertu, c'est lui qui récupère sur le quatrième but pour donner à Bakambu qui lui donne à Suarez. Coaching gagnant de la part de Igor Tudor pour vous? Parce que pour moi, je trouve que Tudor a fait exactement ce qu'il fallait faire avec des joueurs qui sont rentrés frais et ont vraiment enfoncé le clou dans le cercueil des Rémois. Qu'est-ce que tu en penses, Julien?
Moi, c'est ce que j'allais vous demander. Pour moi, c'est le tournant du match. Je ne sais pas si vous avez capté, enfin, si vous avez eu le même pressentiment que moi, mais on a changé d'attitude après à cette rentrée de Suarez et de Vertu. On a changé, on a l'impression qu'on a joué beaucoup plus sur la profondeur. On en manquait en première mi-temps avec Milik, qu'on n'arrivait pas à trouver. Et j'ai trouvé que dès que tu as fait rentrer Vertu et que tu as fait rentrer Luis Suarez, on a beaucoup plus vu l'attaquant. On l'a vu toucher beaucoup plus de ballons et on a été vraiment porté un peu plus vers le haut. Et je trouve que pour moi, il a fait, comme tu as dit, le changement parfait. À la 67e, c'était parfait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Après la sortie de Gerson, l'entrée de Payet, tout ça et tout, c'était dans la logique. Je n'ai pas compris l'entrée de Polasinac parce qu'il a fait rentrer à droite. Je sais qu'il aime bien faire jouer les joueurs en faux pied, mais...
Non, mais Lirola est en partance pour l'Angleterre, donc c'est peut-être...
Ah, voilà, c'est ça. Ah, ok. Voilà, parce que je n'ai pas compris. Je pensais que Lirola, on pouvait le relancer sur un match comme ça. Il aurait pu... Parce que je refuse à croire qu'il est devenu un joueur si bidon que ça, en fait.
Dans cette logique, Ludo, si Lirola est en partance sur l'Angleterre, donc Bakambu, il n'est plus en partance pour l'Espagne.
Je sais pas.
Ok. Ouais, Ouais, excuse-moi,
en tout cas, ça, ouais, non, mais
ça, ça dépend de l'avancée des négos après, ouais. Peut-être que l'Irola, ça va se faire dans la soirée ou demain matin, tu vois. Bakambu, c'est peut-être en discussion, mais sans être plus avancé que ça, tu vois.
Bien sûr. En tout cas, moi, j'ai trouvé que le changement, il était parfait. À la 60e. Ouais. À la 67e, j'ai trouvé que c'était...
62e.
Ouais, 62e, j'ai trouvé. Et je ne sais pas, justement, vous allez me le dire si vous avez vu comme moi, mais j'ai trouvé qu'on a changé de... On a joué différemment.
Qu'est-ce que tu en penses, Ludo? Répondons à Julien tout de suite.
Ouais, ouais, ben, parce qu'il nous laisse pas trop de place pour parler ce soir, Julien. Il est en feu. Mais c'est très bien, moi j'aime bien aussi. Non, mais moi, j'ai un souci avec Munich, clairement, pas avec le joueur, mais dans ces systèmes de jeu-là où on veut jouer vite, etc., il n'est pas à sa place. Et on le voit de suite quand on a des joueurs qui prennent la profondeur et surtout qu'on a des mecs comme Ender, comme Gerson, comme Verotou, comme Payet, même comme Rongier. Qui sont capables de mettre des très bons ballons pour faire partir dans la profondeur des équipes, eh bien oui, quand tu as un Suarez qui a ce profil-là et qui est revenu, la différence, elle était énorme. Et je pense vraiment que Milik, au final, j'ai voulu y croire, mais même dans ce style de jeu-là, pour moi, il n'est pas adapté, en fait. Tu as besoin de cette profondeur, quoi.
Ah non, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense juste que c'est deux profils différents. Aujourd'hui, on avait plus besoin de quelqu'un qui joue en profondeur. C'est pour ça que quand Luis Suarez est rentré, ça a mieux joué. Mais on va arriver à un moment, on va jouer avec des équipes où tu auras besoin un peu de cette tour de contrôle devant. On va avoir besoin de cet appui devant. Et puis, c'est là que Milik va nous faire du bien. Donc, encore une fois…
Mais tu as Bakambu qui est capable de faire ça parce qu'il a le physique.
Ah, mais beaucoup moins bien que Milik.
Jouer au cash,
beaucoup moins bien.
Prendre la profondeur, alors que Milik, il est incapable de prendre la profondeur, quoi.
Et mais parfois, tu n'as pas besoin de la profondeur. Et Milik, c'est quand même dans son style de jeu, dans son profil, c'est un excellent attaquant. Donc, bref, ouais. Attendons voir avant de juger. Mais actuellement, c'est vrai que on avait plus besoin d'un joueur comme Suarez. Vas-y, Julien.
Non, juste sur ces 45 premières minutes, franchement, Milik, il n'a pas démérité, il a cru partout. Il a fait beaucoup d'appels, puis on ne l'a pas vu. Il s'est rentré sur un côté et tout. Ça me fait de la peine de me dire qu'il ne rentre pas dans ce système parce que tu vois que le mec, il se donne, il n'est pas résigné. Et franchement, je l'ai bien observé. Il était de mon côté pendant 45 minutes. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, ce n'était pas soit dans le bon tempo, soit il n'a pas été vu par ses collègues. Ou soit c'était pas... Mais c'est dommage parce que franchement, puis, d'avoir un joueur de cette qualité...
Il faut les suivre, les accélérations de Klaus et Tavares.
C'est clair.
Et Milik, ouais. Il n'arrive pas à les suivre.
Pas complètement d'accord. Mais on va revenir là-dessus. On reviendra là-dessus dans d'autres matchs, je suppose. On ne pourra pas encore juger Milik sur un seul match. Ludo est très sceptique.
Ça fait deux ans.
Ludo est très... Ouais, mais on ne jouait pas pareil. Je pense que Milik va beaucoup s'adapter au système de Tudor, beaucoup plus que celui de Saint-Paul. Mais on verra. On verra très bien ce qui va se passer avec Arkadiusz Milik. Parlons encore d'un petit sujet avant de finir sur nos top flops. On a dit qu'on parlerait de Valentin Rongier. Ludo a dit que pour lui, Rongier, c'est un titulaire indiscutable. Moi, là où le bas blesse, je suis complètement d'accord avec ça. Et honnêtement, ça me dérange ce que je vais avancer maintenant. Mais avec la venue de Jordan Vertu, j'ai comme l'impression que ça pousse Valentin Rongier sur le banc. Et très honnêtement, je trouve ça extrêmement injuste parce que je pense que Valentin Rongier, depuis l'année passée, a été une pièce extrêmement importante. Et aujourd'hui, il a fait tellement un bon match que c'est dommage de le voir sur le banc, même si Vertu, c'est quand même à niveau quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. T'en penses quoi?
Vertu-Rongier,
c'est ce que j'allais te dire. Moi, je vois plutôt Vertu-Rongier.
Et qui tu fais avec Guendouzi, Gerson, qui va sur le banc?
Et Guendouzi, il a fait monter plus haut. Après, les gars, honnêtement, avec le nombre de matchs qu'on va faire, vous inquiétez pas, les trois vont avoir beaucoup de temps de jeu et ça va tourner. Hein. Et Guendouzi, on a failli le cramer. Donc.
Moi, sur le papier, c'est beau. Demain,
tu joues en Ligue des Champions, tu me demandes qui tu mets au milieu. Ouais, je me demande si je pars pas sur un Verotou Rongier plus qu'un Verotou Guendouzi. Ah,
je te suis, Ludo. Oh, wow.
Je suis surpris pour moi Guendouzi est indéboulonnable, mais après c'est chacun son avis.
Il y a juste un petit truc, tu sais, ce jeu en pressing là, ça inclut beaucoup de fautes et j'ai peur qu'avec le niveau de nos arbitres de Ligue 1, on se prenne beaucoup de cartons Et en fait, il va falloir beaucoup de joueurs pour la rotation, les gars. Moi, je vous dis, on a beaucoup de fautes, on a eu beaucoup d'actions où l'arbitre, il était à deux doigts de sortir des jaunes et on va avoir besoin de joueurs
C'est pour ça que en complément. On a quatre milieux de terrain parce qu'on a Gueye, on a Rongier, même si ce n'est pas au même niveau. On a Vertu, on a Guendouzi, Tchagerson qui peut redescendre aussi. Je pense qu'on est armé pour ça, quoi. Et aujourd'hui, franchement, quand tu vois l'effectif, on est armé pour avoir deux équipes. Hein.
Finalement, on a eu quand même un bon arbitrage aujourd'hui. Je pense pas qu'on a eu un mauvais arbitre aujourd'hui. Donc,
faut juste leur dire qu'on a plus Sampaoli sur le banc et qu'ils sont pas obligés de venir mettre des cartons à chaque match à l'entraîneur. Hein.
Le joueur de Reims, il mérite le jaune, c'est Tudor qui le prend.
Bref, anecdotique pour moi. Passons et finissons un peu ce pod avec les tops et les flops sur ce match-là. Marseille-Reims, victoire de 4-1 de la part de l'Olympique de Marseille. Une victoire quand même très importante pour faire taire les détracteurs de Igor Tudor qui, même avant son premier match officiel, était sur la sellette selon certains. Vous en pensez quoi, les tops et les flops? Qui a envie de commencer? Je peux commencer si vous voulez, c'est comme vous voulez.
Allez, vas-y, fais ton plaisir, Adi. Vas-y,
je me fais plaisir. Parfait. J'ai deux tops, et je vous permets d'en mettre autant que vous voulez, si vous voulez. J'ai deux tops, puis j'ai deux flops. Mon top numéro un...
Il invente les règles, allez.
Mon top numéro un, c'est Igor Tudor. Aussi simple que ça. Je trouve que le pressing mis en début de match... les changements que je trouve qui ont été extraordinaires, c'est rare de voir des changements qui apportent autant. Je veux juste lever mon chapeau à Igor Tudor pour ce match-là. Je trouve que quand même ça a été une pièce maîtresse de cette victoire marseillaise. Le deuxième joueur, écoute, c'est un joueur, je ne m'attendais pas du tout à le mettre en top cette saison à l'Olympique de Marseille, parce que c'est un joueur qui a été tellement... Une fois qu'il a signé chez nous, les supporters de l'équipe pour laquelle il jouait étaient « Ah, merci, débarrassez-nous de lui. Il ne sait pas finir, il ne sait pas marquer. » C'est Luis Suárez qui, je trouve, a fait exactement ce qu'on voulait. À la fin, je m'en fous si tu participes au jeu, si tu fais quoi que ce soit. Si tu es attaquant et tu marques deux buts, je suis extrêmement content. Tu as fait ton travail. Tu as su être là où il fallait au bon moment. Et pour moi... Luis Suárez a fait en sorte que l'Olympique de Marseille s'est assuré d'avoir 3 points ce soir. Donc, mes deux tops, ils sont là. Il y en a plein d'autres, mais les deux tops principaux, c'est eux. Pour les flops, honnêtement, je vais être un peu difficile, un peu dur. Le plus logique, c'est Milik. Je trouve qu'effectivement, il était en retard sur à peu près tout. Oui, il s'est donné, hein. Il n'a pas été nul, hein. Il fait juste choisir des flops, c'est un peu le moins bon des 11 ou des 16 qui ont joué. Puis d'un autre côté, je m'attends un peu plus de Guendouzi. Je ne dis pas qu'il a été mauvais, mais j'ai tellement été habitué à avoir un Guendouzi qui est sur toutes les actions, qui est partout, que je suis resté sur ma faim.
C'est pour ça que son rôle est différent et que moi, je ne suis pas convaincu que le mieux, c'est un Guendouzi vers tout. Guendouzi, on lui demande moins de monter, on lui demande d'être plus à la récupération, vraiment en double pivot, on va dire. Et je trouve qu'il est moins à l'aise que dans le poste qu'on lui a donné l'année dernière, où il était un peu plus offensif, où il montait la balle au pied, etc. Donc voilà, juste pour préciser ma pensée, c'est pour ça que je te dis, ça ne me choquerait pas que ce soit lui qui en fasse les frais d'arriver vers tout.
T'es tapé tes flaps, Ludo
Écoute, je continue. Donc, moi, mes flops, Milik, forcément. Et je vais mettre le public qui a sifflé Tudor. C'est mes deux flops de la soirée. Mais vraiment, Milik, le reste de l'équipe, oui, tu peux dire qu'il y en avait qui étaient un petit peu en dessous, etc., mais sans plus. Et après, mes tops, Tavares, qui a été monstrueux, c'est l'homme du match, hein, clairement. Rongier, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envie de mettre notre gardien Branco aussi, parce que l'arrêt qu'il fait au pied...
Il l'a rebaptisé.
Branco.
C'est quoi Branco, ouais. Branco. Et même si je déteste...
Alvaro Gomez.
Même si j'ai envie de l'insulter à chaque fois qu'il fait une relance au pied. Par contre, l'arrêt qu'il fait à 3-1, et je pense qu'il est décisif pour la suite du match.
Je suis d'accord.
Donc, juste pour cet arrêt-là, je lui mets dans mes tops.
Julien?
Bon, ben, je ne vais pas être original parce que franchement, c'est un mix de vous deux et honnêtement, vous avez totalement raison. En top, moi, je vais mettre Rongier parce que j'ai trouvé qu'il a fait un super match et qu'il a assumé son rôle de capitaine et ça m'a beaucoup plu. En top, je vais mettre Tudor parce qu'il a fait son changement, comme tu m'as fait dire, comme tu as dit, qui était crucial et c'était pas mal. Et en flop, je vais mettre le public pour justement pour la critique à Tudor. Et en flop, moi, je vais mettre la défense centrale, les trois. C'est dur, mais il y a eu vraiment des trous d'air et vraiment des fois ou des incompréhensions. Je voudrais pas tirer de trop sur Balerdi, mais je trouve qu'entre Chancel et Gigot, des fois, ça communiquait pas trop bien. Et il y a eu des actions qu'on aurait pu payer cash. Et heureusement qu'en face, il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément du top niveau et donc ils ont pas pu concrétiser. Mais on a eu vraiment des vagues. On a eu des vagues où on aurait pu prendre des buts importants et des buts qui auraient pu leur redonner le moral et on aurait pu finir un match vraiment compliqué. Mais voilà, ça va se faire avec l'expérience. Ils vont apprendre en communiquant et puis ça va le faire.
Ouais, ça va être extrêmement important de voir comment ces automatismes vont se développer dans cette défense centrale, mais même un peu partout aussi sur le terrain. On a déjà vu quand même une très belle chose, une très bonne victoire de l'Olympique de Marseille pour son premier match. Très peu de personnes s'y attendaient à ce genre de prestations pour le premier match. Le prochain match, ben, c'est dimanche prochain, Brest-Marseille. Ça va être quand même difficile, toujours difficile d'aller à Brest. On va voir si ça va être possible de s'imposer aussi en terre brestoise. Ça va être extrêmement intéressant, en tout cas, le reste de ce début de saison. Donc, c'est Ludo, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on clôture?
Non, mais c'est vrai que rencontrer un Pogba de Der Zakarian, ça va nous donner une bonne
Voilà.
idée de ce qu'on va avoir toute la saison.
Exact, je suis curieux de voir où on va trouver la transition avec un bloc bas. Donc, bref, on verra ça très, très bien. Merci les amis d'avoir été là. Je sais qu'il est très tard chez vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. Et bien évidemment, partagez notre contenu, parlez de notre podcast. Puis donnez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce qu'on a dit? Est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Et ainsi de suite. Toujours intéressant de vous entendre. Je vous dis à tous merci encore et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fossés en Amérique.